Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Radio Libertaire 89.4. Vous êtes à bord de l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission pré-enregistrée a été réalisée par l'ami Xavier Lecomte, que je remercie très chaleureusement. Notre invité du jour, vous le connaissez peut-être un peu, puisqu'il est déjà venu dans Bibliomanie. Il s'agit de Denis Grosdanovitch, un écrivain acclamé, auteur entre autres d'un petit traité de la désinvolture paru en 2002 aux éditions Corti et qui a remporté le prix de la Société des gens de lettres. Cet ancien tennisman professionnel, qui est aussi joueur d'échecs à ses temps perdus, est un familier du hors-piste. Il a l'art de prendre la balle au bon et revisite avec brio l'art de lire entre les lignes. S'en suivent des vagabondages malicieusement poétiques que je vous laisse découvrir avec son nouveau livre « La gloire des petites choses » qui vient de paraître aux éditions Grasset. Un vrai bonheur de lecture. Denis de Grosdanovitch, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons autour d'un nouveau livre, La gloire des petites choses, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Et je me suis aperçue tout à l'heure, en feuilletant, parce que moi j'ai une manie, c'est la fameuse page du même auteur. Ça fait 20 ans.
Ouais. Ça fait 20 ans, oui, que mon premier livre, oui. Ah. En 2002, pardon.
Oui, mais ça fait 20 ans que vous avez publié, Denis Grosdanovitch, le petit traité de désinvolture, un livre culte qui est devenu un livre culte, qui est paru aux éditions José Corti et qu'on peut trouver maintenant aux éditions Point Seuil. Et aujourd'hui, chez Grasset, La gloire des petites choses. Alors, La gloire des petites choses, le mot gloire, déjà, c'est un mot, je me suis aperçu aussi que c'était un mot un peu périmé, un peu ancien.
Ah bon?
Oui, non, mais... Tout d'un coup, le mot gloire, je ne sais plus si on l'utilise tellement, mais c'est un titre que vous devez à un poète, philosophe que j'aime personnellement beaucoup, Georges Aldas.
Absolument, ah oui, Georges Aldas, pour moi, c'est un très grand écrivain, malheureusement oublié, et dont on ne trouve plus les livres. Je l'ai appris par... j'ai un neveu là qui a ouvert une librairie, et qui est très littéraire, et de ce fait, je suis un peu son directeur de lecture, et donc il a essayé de trouver les bouquins de Georges Aldas, mais comme les éditions L'âge d'homme ont disparu, ça n'a pas été réimprimé, et c'est très difficile à trouver malheureusement. C'est dommage, c'est vraiment un très très grand écrivain, là. Vous êtes d'accord, je crois.
Oui, j'ai eu la chance de l'interviewer, il faut que je retrouve ses sur cassette, hein, aux éditions L'âge d'homme, et je me souviens qu'il me parlait du Café des philosophes.
Ah oui, oui, bien sûr. Et il a écrit un livre comme ça d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Café des philosophes. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai lu plein d'autres. Dernièrement, c'est... Ah non, j'arrive plus à me souvenir du titre d'un seul coup.
Alors, vous citez une phrase de lui, ce sont les choses imperceptibles, les impondérables, qui nous relient le plus souvent à l'essentiel, qui vit en état de poésie, le sait mieux que tout autre, et cela dans la mesure où il ne cesse d'en faire l'expérience. Titre éventuel pour un petit texte qui en témoignerait, La gloire des petites choses. Alors, d'où le titre de l'ouvrage?
Oui, Denis. Parce que lui, comme il ne l'a pas fait. Et je me suis dit, ben, au fond, je vais continuer, puisque, comme vous le savez, moi, je suis un passeur, et je vis aussi bien... J'essaie de promulguer vers l'avenir, si on peut dire, des auteurs du passé qui sont indûment tombés dans l'oubli. Et c'est un peu mon rôle, c'est comme ça que je conçois la littérature, moi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché mon amour des citations, mais je trouve qu'ils ont mal pigé mon but, ma perspective. Ma perspective, c'est de me placer dans une filiation et de la prolonger vers l'avenir ou vers les contemporains. Et je dois dire que c'est une vocation qui m'a pris très tôt parce que dès que j'étais au lycée, ça a commencé. Dès que je parlais d'un livre à l'un de mes camarades, il allait l'acheter. Je me suis rendu compte que je savais faire ça, quoi. Et j'ai continué, finalement. Parce qu'au fond, la plupart du temps, dans mes livres, enfin, pas tous, mais j'ai quand même écrit un roman, et puis il y a des livres qui sont des sortes de nouvelles. Mais la plupart de mes livres, les essais, c'est presque toujours pour promouvoir, promulguer une certaine littérature qui me semble, en plus, être une littérature de résistance à l'époque. Ça, c'est très important. Et surtout, ce dernier, La gloire des petites choses. C'est un petit manifeste de résistance par la poésie.
Ouais. Mais voilà, on va en parler. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce livre. Moi, je vous ai retrouvé, bien sûr. Alors, l'art de prendre la balle au bon, hein, c'est ça que vous aimez, parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de jouer aussi avec les écrivains que vous avez admirés.
Bien sûr, oui, oui. J'ai une façon de ça c'est un de mes livres. Je prends ça par un biais différent, mais dans mon livre qui s'appelle Le génie de la bêtise, je me suis amusé à montrer que certains des esprits que j'ai révérés le plus, que je trouvais des gens d'une intelligence extraordinaire, avaient pu dire de grosses bêtises. Et ça m'a amusé de faire ça, c'est un peu ludique. Et en même temps, c'est un vœu d'humilité. Parce que comme l'a dit Jean-Paul Sartre, une des rares choses vraiment intéressantes qu'il ait dites, à mon avis, il a dit « tout homme est bête à ses heures comme tout homme est mortel ». Et c'est une chose qu'on oublie trop. Tous autant qu'on est, on peut être brillant au début d'un discours, faible à la fin. Et puis l'intelligence et l'acuité intellectuelle, c'est intermittent. Un peu comme la forme physique. Et en tant que sportif, je le sais. Mais on ne tient pas assez compte de ça. Et les gens, ils devraient sentir d'un seul coup quand ils doivent se taire.
En tant que sportif, il y a aussi des questions de format. Par exemple, il y a les marathoniens, il y a ceux qui vont très vite. Est-ce que vous alternez? Vous êtes plutôt dans le domaine de l'essai, hein, même si vous avez publié un roman. Mais est-ce que le changement de forme, de format, vous y êtes sensible? Comme vous avez été sportif, vous dites, il y a un défi, là je vais...
Alors, je dois vous avouer, Valérie-Marie, c'est que je suis un peu réfractaire au côté de défi sportif, tout ce qui est performance. Moi, le sport, je l'ai toujours conçu sous l'esprit du jeu, d'une manière ludique. Et dès le moment où, justement, il y a le défi, s'il y a une phrase que je déteste dans le sport, c'est se dépasser soi-même. Je trouve ça complètement débile. Pour moi, ce qui est important, c'est de jouer, de participer. Ça, je l'ai connu parce que j'ai adoré la phrase du baron de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Ça, c'est tout à fait mon esprit. Et donc, il faut que le sport reste en même temps, même dans la compétition, il faut que ça reste au niveau de la camaraderie. Et moi, j'ai été sportif professionnel hein, pendant 6 ans. J'ai détesté ce monde-là parce que ça me faisait perdre mon amour du jeu et même mon amour du beau geste. Parce qu'il s'agissait de gagner à tout prix. Et même par les moyens les plus déloyaux. Donc pour moi, le sport performance, non, c'est pas du tout mon truc.
Oui, et l'amitié d'ailleurs a son rôle à jouer dans ce livre. On retrouve donc aussi la loi des affinités réciproques dont vous parlez. Alors la synchronicité aussi dont on avait parlé lors d'une précédente rencontre de Nick Rozanovich. Est-ce que cette fameuse synchronicité, est-ce que c'est un art de vivre et aussi un art d'écrire? Parce qu'on a l'impression que quand deux mots se rencontrent, ça crée parfois des courts-circuits qui donnent la création littéraire.
Alors la synchronicité, c'est une chose, c'est un terme qui a été inventé par Jung, et il faut connaître l'histoire pour bien comprendre. Jung avait une patiente ce jour-là particulièrement, enfin depuis un certain temps, il avait une patiente trop rationaliste, trop cartésienne si on peut dire, réfractaire à sa cure. Et puis ce jour-là, elle lui raconte un rêve qu'elle a fait. Elle était en cure psychanalytique. Elle a rêvé d'un scarabée d'or. Et pendant qu'il écoute ce récit, il entend des tapotements à la fenêtre. Il regarde, et il va jusqu'à la fenêtre, il s'aperçoit qu'il y avait un scarabée doré. Alors il ouvre la fenêtre, il prend le scarabée doré, et il le met dans sa paume, et il lui dit, votre scarabée, il est là. Et ça produit un court-circuit cérébral chez cette femme. Et à partir de ce moment-là, elle a relâché sa rationalité, elle a pu la guérir très facilement. Et il raconte cette histoire à Wolfgang Pauli, qui était un des grands physiciens de l'époque, qui était un des inventeurs de la mécanique quantique, qui lui dit, eh ben, il faut que tu appelles ça la synchronicité. Et voilà, j'ai un autre exemple. Alors, on touche un peu au paranormal, hein. Par exemple, quand j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle La puissance discrète du hasard, et j'ai reçu plein de témoignages de gens, de choses très étonnantes. Par exemple, une femme m'a raconté que Elle parle avec une de ses meilleures amies. Elle vit à Bourges et son amie vit à Tours. Et c'est le soir, et c'est un soir d'été, les fenêtres sont ouvertes. Et d'un seul coup, pendant qu'elle lui parle, il y a un très beau papillon qui est une sorte de sphinx qui rentre dans la pièce. Et elle essaye de le faire sortir. Et elle dit à son amie au téléphone, quelqu'un, elle dit, je te l'envoie. Et à ce moment-là, sa copine dit « Ah, il y a un sphinx qui vient rentrer dans la pièce. » Évidemment que, d'un point de vue rationnel, c'est une coïncidence.
Oui.
Mais c'est quand même ça, la synchronicité. Parce que ce que Jung explique, peu importe que ça soit une coïncidence, l'important, c'est ce qu'on en fait.
C'est ce qu'on en fait. Est-ce que vous, quel est l'élément, le grain de sable qui va décider de l'écriture d'un livre de Nick Rozanovich?
Alors, comme j'essaie de l'expliquer, c'est d'ailleurs, il y a quelques personnes qui ont vu que finalement, le thème central du livre, c'est que c'est quand on parle du plus intime qu'on touche à l'universel. C'est un paradoxe, mais et qui surtout se vérifie en poésie. C'est quand on parle du plus personnel qu'on touche au plus impersonnel, et pas l'inverse. Alors, le problème des faux poètes, c'est les gens qui veulent tout de suite toucher à l'universel. De ce fait, ça fait plouf. Parce que c'est un trop gros pavé qui, vous voyez, il tombe au fond de la mare et puis il fait même pas d'onde. Mais, voilà, pour moi, c'est ça qui est le thème du livre. C'est que c'est par le petit détail qu'on va toucher à l'essentiel. Et comme le dit un philologue que je cite, c'est la formule latine pars pro toto, la partie pour le tout. Et c'est une chose extrêmement importante pour moi, parce que je pense que très souvent c'est par une anecdote qu'on va faire mieux comprendre aux gens quelque chose d'essentiel d'un point de vue philosophique plutôt qu'une grande théorie. Et évidemment, il faut savoir la distiller, c'est sûr. Hein. Bon, mais en tout cas, pour moi, c'est très important. Parce que je suis surtout anti-dogmatique, d'une façon générale. Je ne supporte pas le dogmatisme, le didactisme appuyé. Vous voyez. Et donc, je trouve que c'est très important de fonctionner par anecdote. Mais là, j'étais tombé dans la marmite parce que mon père était comme ça. Il adorait les anecdotes. Et il fonctionnait toujours par anecdote. Quand il voulait me faire comprendre quelque chose, c'était toujours à travers une anecdote. Jamais à travers un discours.
Il faisait pas du vitrail, non?
Si, exactement. Mon père était dessinateur et artiste. Et il travaillait pour un maître verrier. Oui.
Donc il ajustait des petits bouts, exactement. Des petits bouts de lumière.
Exactement.
C'est un peu ce que vous faites.
Mais il écrivait aussi dans des carnets, mais il se faisait pas confiance. Moi, j'ai gardé ses carnets, et c'est assez extraordinaire. Il avait le don extraordinaire de l'anecdote, oui.
Alors, il y a aussi dans votre livre, Denis Grozanovich, le goût de la promenade, de la flânerie, de la cueillette, j'allais dire. Et je pense à quelqu'un que vous admirez beaucoup, me semble-t-il, c'est André Dautel.
Ah, ben, André Dautel, voilà un auteur qui est un petit peu oublié, j'ai l'impression. Il a eu beaucoup de succès en son temps. Tout à fait à part. Et en plus, les gens ont oublié qu'il a écrit un merveilleux recueil de poèmes qui s'appelle La vie passagère. Et un poème que je cite là, qui est assez extraordinaire, c'est Dieu sait pourquoi. Alors, il y a deux, trois formules qui viennent, là, dont je ne me souviens plus, mais la chute est produite. Dieu sait pourquoi, à ce moment-là, nos vélos étincelèrent dans la grande allée. Et ça, c'est ce détail, les vélos qui étincellent. On a tous vu des choses de genre. On se demande ce que ça signifie. Pourquoi ça nous reste comme ça des années après ce moment où les vélos étincelèrent dans la grande allée? C'est prodigieux. Et c'est pour ça que je dis que là, cette forme de poésie rejoint la poésie de l'haïku japonais.
Oui, d'ailleurs, vous en parlez. C'est tout à fait, dites-vous, ma conception de la littérature, écrire pour quelques consciences fraternelles qui auront l'aspiration d'aller déchiffrer des inscriptions calligraphiées dans des recoins hasardeux. Et donc, vous citez André Dautel. Est-ce qu'il a été... Et vous citez aussi Patrick Romo, d'ailleurs. C'était son comparse...
Ah oui, son comparse en mycologie. Ils allaient tous les deux faire des... Parce que c'était des grands spécialistes des champignons. Et j'ai lu un livre, alors très bizarre, de Patrick Romo. Je trouvais que ça avait un rapport avec mon titre, qui s'appelle L'artiste en petites choses, qui est paru l'année dernière, dans lequel il y a des passages extraordinaires, d'autres très étranges. C'est quelqu'un de très étrange, mais il a aussi comme grande qualité pour moi d'être un turiféraire, un supporter, si on peut dire, de John Kopepowicz. Il a traduit plusieurs livres de John Kopepowicz. Et donc ça, c'est pour moi déjà là, il est adoubé, hein, vous voyez, parce que pour moi, John Kopepowicz est le plus grand auteur littéraire du XXe siècle. Je le mets au-dessus de tous, hein, au-dessus de Musil, au-dessus de Proust, au-dessus de... Bon, et Dieu sait pourtant, d'ailleurs, qu'il a écrit sur tout cela, puisqu'il était un grand critique littéraire. Le meilleur essai que j'ai jamais eu sur Proust, c'est John Kopepowicz qui l'a écrit. Et donc, je l'ai même fait découvrir à Jean-Yves Tadié, qui est le grand supporter, enfin le grand spécialiste de Proust. Il m'a dit effectivement, c'est parce que ce John Copperpot avait une particularité. Il était un peu médium, si on peut dire. Et il dit lui-même que quand il parle d'un auteur, il transmet en lui. Il devient cet auteur. Et c'est effectivement l'impression qu'on a. J'ai lu des, par exemple, j'aime beaucoup Stefan Zweig. Alors, je prends un exemple. Ouais. Il a écrit beaucoup sur
les échecs, comme jour d'échecs.
Par exemple, mais il a écrit, par exemple, Alors, il y a un livre sur Dickens, qu'il a écrit, que je trouvais extraordinaire. Puis après, j'ai lu suite Copperpot, mais alors là, ça peut rien avoir, parce que on a l'impression d'être Dickens. Vous voyez, c'est assez magique. Et ça, c'est la grande force de Powys.
Et c'est vrai que vous assemblez, il y a une sorte de pêle-mêle d'ailleurs, hein. Ce sont des écrits...
Monsieur a fait un pêle-mêle de petites anecdotes, je me suis beaucoup amusé. D'ailleurs c'est amusant parce que je viens juste de déjeuner avec ma fille là à l'instant, et elle me dit « Ah oui, comment tu t'es souvenu de ça ?» Alors je raconte quand même cette petite histoire parce qu'elle vaut le coup, c'est ce genre de choses que j'adore. Son grand-père, elle avait 6 ans, l'emmène au parc de Thoiry, vous savez, le parc animalier. Ouais. Bon. Où on voit des éléphants, des tigres, des rhinocéros. Ben. Et c'est un jour de pluie. Et quand elle revient, j'étais dans la maison, je dis, alors Émilie, c'était comment, Thoiry ? Ah, elle me dit, papa, si tu savais les énormes escargots qu'il y a là-bas. Quand même extraordinaire. Elle aurait dit, ah, tu t'es souvenu de ça ? Oui, effectivement, ces genres de choses. Pour moi, c'est très important, ces choses-là, parce que la gloire des petites choses, c'est ça. Parce que plutôt que c'est... Ça épate les gogos, d'ailleurs, ces pauvres animaux qui sont parqués dans, enfin, parce qu'ils ont beau avoir de l'espace, c'est quand même invraisemblable les amener dans des parcs ici, sous des latitudes qui leur correspondent pas. Mais ça, les gogos, c'est des gros animaux, là, mais. Et alors elle remarque l'essentiel, c'est les escargots de Bourgogne.
Et oui, non, c'est bien. Puis en plus, même quand vous parlez d'hôtel, vous vous rappelez d'un personnage qui collectionnait aussi, c'est un peu le même état d'esprit, des bribes de phrases.
Ah, c'est pour ça, vous avez cité, là. Voilà. Il va mettre dans des endroits. Parce que c'est dans un livre de mon roman préféré d'André d'Hôtel, Lumineux rentre chez lui. Oui. Et ce Lumineux, il a une espèce de manie. Il collectionne dans les livres des passages poétiques et il va les inscrire dans des endroits complètement improbables, dans une paroi d'ascenseur, sur un mur à moitié en ruine. Il va essayer d'aggraver ça comme il peut pour que des gens dans son genre viennent les déchiffrer là et en être eux-mêmes illuminés à leur tour. Et moi, c'est ma conception de la littérature. Parce que, en fait, j'écris pour les amis. J'écris pas pour le grand public. Je veux dire, je sais que le grand public va pas s'intéresser à ce genre de choses. Donc, oui.
Encore que vous n'en savez rien.
Effectivement. J'espérerais qu'il y ait plus de gens qui...
Il y en a beaucoup.
Mais, oui, enfin, je sais pas. Je me rends pas compte.
En fait, vous vous adressez aussi au lecteur comme à un ami.
Ah, absolument. Ça, oui. Ça, oui, c'est très important pour moi. Mais on peut pas être ami avec tout le monde. C'est...
Oui, on l'avait aussi dans votre livre. On en parlera dans fin de notre conversation. Parce que vous avez qui ne sont pas les miennes. Mais c'est bien. Alors, il y a aussi le rôle de la parenthèse. Parce que j'ai vu, il y en a qui ont le fétichisme du point virgule. Mais vous, il me semble que la parenthèse, son rôle à jouer dans votre écriture, la parenthèse soit un point de vue, qu'elle soit clairement identifiée ou non d'ailleurs.
Bah, moi, d'un point de vue, comment dire, presque technique, on peut dire que je suis un proustien, toute proportion gardée. J'adore les longues phrases et j'adore les incises. Donc voilà. La parenthèse, c'est une manière de faire une incise. Et aussi, je pratique les tirets, entre tirets. Parce que pour moi, c'est justement une manière antidogmatique. Parce que au cours d'une longue phrase, on peut dire plusieurs choses à la fois et même se contredire. Et pour moi, c'est très important de se contredire, même à l'intérieur d'une même phrase. Parce que ça rétablit l'équilibre du monde. Et justement, mon maître spirituel, qui est John Copperpot, dont je viens de parler, dit, c'est au moment où on est dans le paradoxe qu'on touche au réel. Et c'est ça que je pense aussi. Donc, la longue phrase, c'est très important, parce que justement, ça casse le discours trop linéaire, le discours trop orienté, et ça nous plonge dans l'incertitude. Et c'est très important de l'incertitude.
Oui, est-ce que aussi ça, la mode actuelle, alors il y a deux types de styles, il y a des styles techniques très, très aboutis, puis il y a aussi des styles émotionnels, où ce sont des phrases courtes. on joue sur le souffle, on joue sur le rythme. Est-ce que la longue phrase permet plutôt un style vagabond? Ça correspond aussi à votre manière de penser, d'écrire, voilà. Le vagabondage.
Oui, voilà. Alors, évidemment, tout ça demande à être nuancé. Parce qu'il y a des auteurs de phrases courtes qui sont prodigieux. Ouais. Mais là, on s'aperçoit à ce moment-là qui manie le paragraphe comme une phrase longue. Ah, okay. Et ils font des phrases courtes, mais c'est le paragraphe qui compte. Et en réalité, les points comptent pas. Je dirais ça d'Hemingway, par exemple, qui est quand même c'est le maître de la concision. L'autre grand maître de la précision, c'est Jorge Luis Borges. C'est d'ailleurs le plus extraordinaire, être capable de résumer comme il le fait en quelques phrases. Et Flaubert aussi. Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, puisque j'ai écrit un essai dans le génie de la bêtise sur Flaubert. Flaubert, quand il écrit Bouvard et Pécuchet, il faut savoir qu'il avait lu tous les livres de philosophie de son époque et aussi avant. C'était un grand lecteur de philosophie. Et il arrive à résumer toute une philosophie en quelques phrases. Mais même en une phrase, parfois. Mais ça demande non seulement du travail, mais une forme de génie littéraire. Et Hemingway, c'est la même chose. Alors là, on retouche un autre de mes dada, c'est le détail significatif et suffisant. Ça, c'est une formule de Tchekhov. Et on peut dire que Hemingway, lui, il pratiquait ça. Et alors, par exemple, Hemingway qui adorait la boxe, qui adorait le sport, et il dit, si vous voulez décrire un combat de boxe et donner l'ambiance, il ne faut pas décrire le bruit des coups, les han-han de l'effort, ou même la foule. Non. Il faut décrire le crissement des semelles en caoutchouc sur le sol du ring. Et ça, je trouve ça extraordinaire comme détail, parce que personne n'y pense, mais du fait que personne n'y pense, d'un coup, ça fait tilt, comme on dit. Et là, on est dans l'ambiance. Et au fond, alors là, je fais un petit saut, tout le monde me demande tout le temps, puisque j'étais donc un sportif professionnel, quel rapport entre le tennis, puisque moi c'était le tennis, et la littérature. Et je dis toujours, c'est la précision. Parce que quand la balle s'approche de vous, si vous mettez le pied 3 cm trop à droite ou trop à gauche, la balle n'est pas centrée par le tamis de la raquette et elle part n'importe où. Donc le coup d'œil est extrêmement important. Et la même chose, une description littéraire. Si vous manquez le détail significatif et suffisant, eh bien, la description ne marche pas. Et donc, il y a un rapport, oui, c'est le coup d'œil. Voilà.
Est-ce que votre lien... Ça pourrait être aussi des petites nouvelles, ces textes.
Ah oui. D'ailleurs, beaucoup de mes livres, comme par exemple « Brefs aperçus sur l'éternel féminin », ce sont des nouvelles. Et le même aussi, l'avant-dernier, c'est-à-dire « Dandys et excentriques, les vertiges de la singularité », publié aussi chez Grasset, ce sont beaucoup des nouvelles, puisque je fais 9 portraits d'excentriques que j'ai connus.
Donc à chaque fois, ce sont des histoires. Alors vous parlez aussi d'un écrivain que vous aimez beaucoup, c'est Marcel Cohen, qui est aussi un collectionneur de phrases. Et dans un texte à la poursuite des petits riens, vous parlez surtout de la tradition de l'érudition inutile, cette notion d'inutilité, d'oisiveté, c'est important.
Alors ça, l'érudition inutile, il y a un très beau texte du philosophe Michel Foucault, que par ailleurs je n'apprécie pas tant que ça, mais il a écrit un texte absolument magnifique que quelqu'un m'avait fait parvenir sur l'érudition inutile. Et lui, il se place dans cette filiation de tout ce que les anglo-saxons appellent les scholars, c'est-à-dire les éternels étudiants. Et ces gens-là pratiquent l'érudition inutile. En fait, pour tout dire, c'est pas vraiment inutile, parce que je suis un peu mystique. Et j'ai tendance à penser qu'il y a comme une forme de prière dans le fait de se livrer à quelque chose d'inutile qui permet aux gens de se détendre. Vous voyez, s'ils sont touchés par les petites particules psychiques voyageuses que les Grecs appelaient les idolas. Les idolas, elles circulent entre les âmes de manière en fait intemporelle et aussi non géographique. Et de ce fait, elles arrivent à ensemencer d'autres consciences. Enfin, c'est ma façon de voir.
Comme les abeilles, mais...
Voilà. C'est une sorte de pollen spirituel.
Mais d'ailleurs, je vais vous citer la tradition. Voilà, vous ajoutez. Il me semble que j'ai le devoir de reprendre le flambeau de cette célébration désespérée au sein d'un monde s'enfonçant chaque jour plus profondément dans le marasme utilitarisme le plus sinistre. Donc, il y a... Voilà, on va. Oui. C'est ce côté d'acte gratuit.
Bien sûr. qui, comme je le dis, n'est pas tout à fait gratuit. Il est gratuit au sens du rationalisme occidental habituel, le cartésianisme ou ultramatérialiste, où on ne croit qu'à ce qu'on touche. Hein, c'est... Et donc, alors que moi, personnellement, j'ai tendance à croire à la circulation d'éléments psychiques d'âme à âme. J'ai tendance à y croire, mais pas d'une manière chrétienne, parce que je suis plutôt assez opposé à la religion chrétienne et surtout au Dieu unique. C'est-à-dire, pour moi, comme l'a dit un philosophe latin au moment où le christianisme s'implantait trop dans l'Empire romain, je ne crois pas qu'un seul chemin puisse mener à un si grand mystère. Voilà, je trouve cette formule extraordinaire.
Voilà. Nous allons faire justement, s'il y a plusieurs chemins, il y a le chemin de la musique, et je pense que vous aimez la musique, peut-être le jazz sans doute. Nous allons faire une pause musicale de Nick Rozanovic.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Voilà, Denis Krosanovic, nous sommes toujours à côté de votre livre, La gloire des petites choses, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Il y a une construction dans votre livre. Hein. On sent que chaque chapitre, il y a des titres auxquels vous pensez bien. Je parlais de nouvelles tout à l'heure, parce que chaque fois, c'est une petite histoire.
Alors, c'est très intéressant que vous mettiez l'accent là-dessus, parce que, en fait, c'est inconscient chez moi. Ma façon de construire un livre, si on peut dire, c'est me laisser aller à une dérive personnelle, et je me rends compte effectivement, une fois que j'ai fini, qu'il y a une espèce de construction, mais elle est inconsciente. Et c'est très important pour moi, parce que d'un point de vue presque, comment dire, philosophico-architectonique, ouais. Parce que pour quelle raison est-ce qu'on se sent aussi bien dans les villages médiévaux ? Et les gens raffolent de ça. Pourquoi on se sent si bien à Venise ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de plan d'urbanisme. Ça s'est construit comme les colimaçons construisent leur...
Ah ouais.
Bien sûr. Je mets ma maison là, toi tu l'adosses là, un autre, bah, toi tu l'adosses ici. Et ça s'est fait sans plan. Mais il y a un instinct constructeur, aussi bien chez les abeilles que chez les hommes, qui est bien supérieur à tous les plans d'ensemble. Alors, je crois que moi, instinctivement, vu ma façon de penser... Je me laisse gagner par cet instinct constructeur qu'il y a en moi. Enfin, je m'abandonne à cet instinct constructeur. Et d'une certaine façon, je crois que cette forme d'architecture, même mentale, est plus efficace que celle qui est trop conçue à l'avance.
Il y a des titres qui se répondent les uns aux autres. Ça fait penser à l'art du ricochet. Il y a un côté, aussi japonais, bizarrement. On pense aux notes de chevet.
Alors, Valère Marie, c'est pas, chez moi, c'est chinois. C'est très important. Ah, oui. Parce que pour moi, j'adore les haïkus, mais pour moi, ce que les Japonais... Bah, il faut savoir que les Japonais ont tout tiré de la culture chinoise, hein, parce que les gens, souvent, l'ignorent. Mais que malheureusement, comme ils avaient un esprit militaro-agressif, ils ont corseté beaucoup la philosophie chinoise et surtout ce qu'on appelait... Parce que le zen, au départ, en Chine, c'était le chan. Mais les poètes et les artistes du chan étaient, à mon avis, bien supérieurs, dans le sens où je l'entends, à ceux du zen. Parce que dans le chan, il y avait une poésie beaucoup plus libre, beaucoup plus... élargi et surtout beaucoup plus drôle parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, et ce qui se perd chez les Japonais. Et donc pour moi c'est très important de parler de l'ancienne Chine, attention, hein, pas la nouvelle.
Et il y a cette notion aussi d'incident. Par exemple, à un moment donné, vous citez Barthes à propos, je crois, du degré zéro de l'écrit, de la notation. Et c'est vrai que, voilà, vous parlez de cette notion d'incident, et qui est très important dans votre livre, parce que c'est des incidents.
C'est ma méthode. Et si vous avez noté, je veux bien que vous lisiez le passage, parce que c'est vraiment ma profession de foi littéraire. Je peux essayer de le retrouver. Je sais où il est. Je veux, demain, je présente mon livre, là, à l'écume des pages. Et je veux que le lecteur lise cet endroit. Parce que, voilà, la citation de Roland Barthes. Curieusement, dans la préface qu'il rédigea pour l'Asiade de Pierre Loti.
C'est ça.
Ah, vous savez que Pierre Loti est un grand écrivain. Hein, les gens le prennent uniquement pour un écrivain.
Oui, je sais.
Et il faut savoir que Proust s'est beaucoup inspiré pour le style de Pierre Loti. Seulement, ce qu'il y a, et qui a beaucoup dérangé les gens, ça peut être très dérangeant, c'est que Pierre Loti, quand il se met à penser, alors là, c'est horrible. Et Anatole France avait dit de lui... Pierre Loti est bête comme ses pieds, mais c'est notre maître à tous. Et je trouve ça très fort d'avoir dit ça. Et c'est exactement ce que pense Proust, hein, parce que finalement, quand il s'abandonne à sa sensibilité, c'est un prodigieux écrivain, hein, oui, Pierre Loti. Oui. Alors voilà ce que dit, en tout cas, Roland Barthes. Là, j'adore digresser. Hein. Donc, à propos de la méthode, voilà. Ce qui est raconté, ce n'est pas une aventure, ce sont des incidents. L'incident est simplement ce qui tombe doucement comme une feuille sur le tapis de la vie. C'est ce pli léger, fuyant, apporté au tissu des jours. C'est ce qui peut être à peine noté. Une sorte de degré zéro de la notation. Juste ce qu'il vous faut pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, il ne se passe rien. Ce rien, cependant, il faut le dire. Comment dire le rien ? Le rien ne peut être pris par le discours que de biais, en écharpe, par une sorte d'allusion déceptive. Et moi, je continue en disant, c'est bien ainsi de biais que dans mes inlassables carnets, je me suis toujours efforcé de noter au jour le jour les minuscules événements, c'est rien à la limite de l'insipide, qui émaillait mon existence. Et d'ailleurs, un autre savant observateur du langage, le philologue Eric Auerbach, définit parfaitement cette démarche littéraire minimaliste lorsqu'il nous entretient de la pratique de ce qu'il appelle la bibliomancie, laquelle promeut une idée demeurée étrangère aux histoires traditionnelles de la littérature, à savoir que c'est à partir d'un fait accidentel, éventuellement quelconque, et par exemple au gré d'un passage pris au hasard dans un livre, qu'on peut atteindre à une compréhension plus profonde de la réalité tout entière. Et là, je termine par la citation qu'il donne, je cite Auerbach, « On accorde alors une moindre importance aux grands événements extérieurs et aux coups du sort. On les estime moins capables de révéler quelque chose d'essentiel à propos de l'objet considéré. On croit en revanche que n'importe quel fragment de vie, pris au hasard, n'importe quand, contient la totalité du destin et qu'il peut servir à le représenter. On a plus de confiance dans des synthèses obtenues par l'approfondissement d'une circonstance quotidienne que dans un traitement global, ordonné chronologiquement, qui suit son objet du commencement à la fin. Et ça, pour moi, c'est une profession de foi littéraire.
Oui, alors, et d'ailleurs, vous citez aussi Julien Gracq, après, je crois, qui compare le don littéraire à cette faculté octroyée à quelques-uns de savoir lancer des petits cailloux à l'endroit précis où se situe sur les parois de notre caverne platonicienne une veine architectonique susceptible de la faire résonner tout entière comme un gigantesque gong. Donc, l'art de la résonance, être à l'écoute de la vie, voilà. Un pied dans la philosophie, l'autre dans la littérature.
Voilà, exactement. et cet art du petit caillou qu'il faut lancer à l'endroit. Alors, évidemment, ça ressemble beaucoup à... Il y a un livre de Erigel qui s'appelle L'art de l'archer dans le Zen. Et il faut savoir que Erigel donc a tenté pendant des années, pendant 5 ans je crois, au Japon avec un maître. Lui, il s'est initié au tir à l'arc. Et au bout de 5 ans, il n'arrivait pas à tirer à tout coup dans le mille de la cible, alors que son maître le faisait très facilement. Et un jour, il lui demande mais comment ça se fait ? Et son maître lui dit c'est parce que tu vises. Il faut pas viser.
Oui.
Parce qu'il faut s'abandonner à l'entraînement qu'on a reçu pendant très longtemps. Et on s'abandonne. Et à ce moment-là, évidemment, on est, comme disent les Anglais, in the tune. Et on est en harmonie avec le cosmos. Et ça marche. Et moi, je l'ai connu, ça, en tant que joueur de tennis. Mais ça m'arrivait rarement. Parce que justement, j'étais peut-être un peu trop occidental, intellectuel à la manière occidentale. Et ça m'a pris par surprise. Une fois, le plus grand tournoi que j'ai gagné, tous les matins, j'arrivais sur le court et je sentais que mon double était là et qu'il jouait pour moi. Parce que je m'abandonnais, je ne sais pas pour quelle raison. Et jusqu'à la fin, pendant les 6 matchs, tous les matins, je me disais, est-ce qu'il sera encore là? Et encore, il était là. Mais ça n'a pas continué parce que je réfléchissais trop. Oui,
mais alors quand vous jouez aux échecs... Mais quand vous jouez aux échecs, alors c'est l'inverse.
Ah ben non, c'est la même chose. Hein, aux échecs, on peut. Alors, si on s'entraîne beaucoup, attention, hein, c'est pas comme l'oiseau chante. Il faut s'être entraîné beaucoup. Mais une fois qu'on s'est entraîné beaucoup, il faut plus viser. Il faut s'abandonner à la seconde nature qu'on s'est créé, l'instinct qu'on s'est créé à force d'entraînement. Et ça, c'est très difficile pour un occidental.
Donc, faut faire confiance en son inconscient.
Voilà, un inconscient qui en même temps, c'est pas tout à fait l'inconscient. C'est une seconde nature qu'on s'est créé, mais qui est en rapport, qui est resté en rapport avec l'inconscient. Mais c'est pas l'inconscient seul, parce que sinon ça marcherait pas.
Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser la poésie, elle revient au galop.
Exactement. Ah, toujours. Mais vous savez, l'autre histoire, c'est aussi plus pessimiste. Hein. C'est chasser le naturel, il ne revient jamais.
Ouais.
Mais ça, c'est pour nos hommes politiques surtout.
Oui, je pense aussi, moi aussi. Alors la minutie. Alors autre citation d'Aldas. La minutie, en fin de compte, est un méticuleux hommage rendu à la vie dans les plus tenu, encore une fois, de ses manifestations. Georges Aldas, encore, c'est vrai que c'est un poète qui mérite, et un philosophe qui mériterait d'être réédité. Alors voilà ce que écrivait Georges Aldas. L'écriture inspirée repose donc, insiste-t-il, sur le sacrifice du moi au jeu. Autrement dit, seul l'effort de cerner le plus personnel nous lie au plus impersonnel. Donc c'est vrai, il y a toujours ce goût du paradoxe, être là où on croit être, on n'est pas là forcément où on est. De même, cette phrase de Paul Valéry qui vous laisse changeur, tout homme crée sans le savoir, comme il respire, mais l'artiste s'en créer, son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée la fortifie.
Ouais, le fortifier, je crois. Ouais. Ah oui, ben Paul Valéry a écrit des choses merveilleuses avec son esprit. Et là, lui était complètement dans le paradoxe parce que sa poésie était souvent d'inspiration malarméenne. Et pour moi, c'est relativement abscon. Par contre, en tant que penseur, il a touché le grand art, un sens de la formule absolument inouï, quoi. D'ailleurs, il y a une chose très amusante à savoir, vous savez, j'adore digresser, mais c'est une façon aussi de toucher les choses. Il y a une chose très importante, vous savez que son meilleur ami était Paul Léoto. Et que tous les soirs, ils se raccompagnaient l'un l'autre, parfois deux, trois fois, jusqu'à la pas de porte, puis ils disaient, ah, je te raccompagne encore. Et c'est très curieux parce que un hyper intellectuel et un autre uniquement dans le bon sens, carrément dans le sens commun, grand défenseur du sens commun. D'ailleurs, Léoto s'est beaucoup moqué de Valéry, mais Valéry le révérait quand même. Et alors il y a une histoire quand même qu'il faut savoir. Vous voyez le bon sens de Léoto. Valéry était quand même en même temps un homme assez vaniteux, et quand il a été à l'Académie française, il raconte à Léoto un jour. Il lui dit que quand il a endossé le costume d'académicien, il lui dit oui, c'est terrible, on est engoncé là-dedans, on peut même plus se courber. Et Léoto lui lance, enfin, on se courbe avant.
Ouais, et il y a une autre anecdote pour Léoto, je crois, c'est avec Céline. Je crois qu'il écrit à Céline, il dit Vous c'est Léoto qui s'adresse à Céline. Savez que je suis tout à fait indifférent à votre sort, mais que je suis prêt à m'occuper de Bébert qui seul m'importe. Bébert, c'est son chat.
Oui, mais il lui dit, surtout au début, il lui dit je suis indifférent à votre sort parce que les ennuis qui vous arrivent à la fin de la guerre, vous l'avez bien cherché. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre chat. Si vous voulez, je m'en occupe. Et je trouve que, d'une manière, voilà encore une manière indirecte de faire une critique absolument extraordinaire. Parce que, en fait, Céline, si on le lit bien, à part peut-être le voyage où qu'il a lâché un poème absolument prodigieux, mais le reste du temps, c'est quand même relativement fabriqué et les gens le voient pas. Il y a une rhétorique, c'est un rhétoricien, mais un rhétoricien de génie qui a fabriqué une espèce de langue qui n'est pas du tout en fait populaire. Elle est beaucoup plus savante qu'on ne pense, mais souvent les gens voient pas ça. Par exemple, ce qui est étrange, c'est quand on passe du voyage à Mort à Crédit. Parce que Mort à Crédit, alors là, c'est carrément fabriqué. Hein. D'autres après le sont moins, mais c'était alors un fabricateur de génie, mais quand même un fabricateur.
Il était fils d'une hôtelière. Hein.
Oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, très juste. Oui, c'est très juste.
C'est un peu contrairement peut-être.
Puis il y avait une autre chose que je lui reproche, c'est le côté hygiéniste. C'est un hygiéniste.
Oui, mais il était médecin alors donc.
Oui, c'est ça. Et vous savez qu'il a fait sa thèse sur c'est Malvache, ouais. L'homme qui a promulgué le fait de se laver les mains. Et donc c'était un hygiéniste et ça se sent un peu trop. Et c'est ça son opposition avec Montaigne. On a oublié que dans le voyage, il fait une grande diatribe contre Montaigne. Ça, je peux pas lui pardonner parce que Montaigne, c'est avec comme John Cooper Powys, Montaigne, c'est mon homme. Donc,
ouais. Mais est-ce que aussi l'analogie, vous considérez que c'est l'un des beaux-arts, le sens de l'analogie. Enfin, on sent ça un peu en vous lisant quand même, Denis.
Absolument. D'ailleurs, là, ça touche à l'un des chapitres de mon livre à propos de la notion de small is beautiful, où je parle de cet homme qui, pour moi, est le plus grand philosophe de notre époque. Il est plus jeune que moi et qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit Une question de taille. Et il faut savoir que Olivier Rey est sorti premier de Polytechnique. Il était un grand chercheur en mathématiques. Il a failli, je sais même pas s'il a pas failli avoir la médaille Fields en mathématiques. Et puis il s'est retourné contre les mathématiques et contre la mathématisation du monde. Et maintenant, il écrit des livres où il explique que un des grands malheurs de notre monde actuel, c'est cette mathématisation galopante qui fait qu'on voit tout à travers les statistiques, le chiffre, tout est, et surtout en économie. Et alors je sais plus d'où on était parti.
On est parti, je sais plus non plus.
Oui, d'accord.
Je sais plus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, donc oui, vous évoquez, il y a un côté aussi politique dans votre livre, Denis Krasnodovich. C'est-à-dire que vous évoquez la notion d'utilité, la notion de small is beautiful, qui est un livre.
Oui. C'est un livre qui a été écrit par un certain Schumacher, mais il faut savoir qu'il a été inspiré par quelqu'un dont je parle dans le livre, c'est Olivier Rey qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle Léopold de Cor, et qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais The Breakdown of Nations, et c'est l'effondrement des puissances en France. Comme par hasard, il restait plus que trois livres en France, j'ai réussi à en trouver un, où il nous explique que tous les malheurs du monde moderne viennent du fait que les choses sont trop grosses. Et entre autres, en politique, pour lui, dès le moment où quelque chose ne va pas, c'est parce que la chose a pris des proportions disproportionnées. Et entre autres, pour ce qui s'agit de la démocratie, il explique que la démocratie ne peut pas dépasser un certain nombre d'individus. Alors pour les nations modernes, pour lui, au-delà de 10 millions d'habitants dans les nations modernes, on tombe automatiquement dans le totalitarisme. C'est-à-dire que la bureaucratie, vous savez, il y a une plaisanterie comme ça aussi, puisque je saute toujours par anecdote. C'est, je sais plus qui a dit ça, à propos du communisme soviétique. On est très vite passé de la dictature du prolétariat à la dictature du secrétariat. Et donc, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. Et donc, lui, il pensait qu'il fallait, quand quelque chose est trop gros, il fallait réduire, il fallait diviser. Et pour lui, d'un point de vue démocratique, l'idéal était la Suisse à l'époque. À l'époque. Maintenant, ça peut changer.
Et vous parlez aussi de justement cette notion d'inutilité du langage aussi, de Lewis Mumford. Lewis Mumford, dites-vous, a clairement expliqué dans Le mythe de la machine qu'il y avait très peu de chances pour que le langage humain soit né d'un besoin utilitaire, mais bien plutôt d'un besoin lyrique de l'âme collective.
Absolument. Et il y a un autre auteur qui a parlé de ça, et j'en parle dans le livre. C'est le juif polonais Bruno Schulz, qui était le pendant de Kafka. Je trouve même qu'il est supérieur à Kafka, pour moi, dans la même veine, et dans la veine judaïque. Et lui, il a beaucoup parlé de ça aussi, et il pense aussi que le langage est né d'un besoin lyrique et poétique. Et ça me semble complètement tomber sous le sens. Parce qu'il y a une autre époque de l'humanité, ça remonte peut-être aux chasseurs-cueilleurs, mais où le langage n'était pas du tout utilisé de façon utilitaire. De toute façon, au départ.
Comment avez-vous vécu le... Est-ce que c'est un livre du confinement, ce livre, La gloire des petites choses, de Nick Grozanovic? Parce que, à un moment donné, vous dénoncez, par exemple, on sent que vous êtes agacé par ce qui se passe dans le petit écran. Vous dites, tous ces demi-savants, demi-habiles, dites-vous, qui n'ont jamais le temps de prendre le moindre recul par rapport à un flot incessant des chiffres, des faits qui leur sont déversés à foison, alignés avec une assurance décomplexée, des suites de raisonnements truffé de contradictions, d'illogismes et d'absurdités manifestes. Comment avez-vous vécu cette période un peu surréaliste que nous venons de vivre?
Alors moi, je l'ai vécu, je ne peux pas dire si je l'ai tout à fait vécu. Ça n'a rien changé pour moi parce que comme maintenant j'habite à la campagne, dans un endroit au milieu d'un parc avec plein d'animaux, plein d'oiseaux. Et je pouvais même aller me promener en forêt parce que c'est un endroit laissé pour compte où les gendarmes ne circulent pas. Ça n'a rien changé à ma vie, moi, personnellement. Par contre, j'avais beaucoup de voisins qui ont des résidences secondaires et qui, eux, n'arrêtaient pas de me dire « Ah, c'est la plus belle période de ma vie !» Parce qu'ils redécouvraient la nature et redécouvraient une certaine forme de loisir, de liberté, en fait. Et ils n'étaient plus dans la presse des villes. Et moi, tout à fait personnellement, ça n'a pas changé grand-chose. De toutes les manières, vous savez, personnellement, c'est ce que j'ai toujours. Moi, je suis en vacances depuis l'âge de 17 ans. Donc, j'ai toujours, grâce au tennis, où j'ai toujours réussi à échapper à la presse du monde du travail industriel. Oui. Et c'était... Mon père était artiste et c'est lui qui m'avait lancé là-dedans. Alors, j'ai toujours gagné très très peu d'argent. Mais cet argent, je le gagnais vite. Parce que je prenais cher de l'heure dans mes leçons de tennis. Et ça me permettait d'avoir tous mes après-midi libres. Et par exemple, comme je vivais à Paris, moi j'ai vécu Paris de manière merveilleuse à l'époque, hein, parce que je circulais dans Paris à l'heure où les autres travaillent, et c'était un paradis pour moi. Vous voyez, j'allais à la Cinémathèque, j'allais à mon club d'échecs, j'allais essayer de séduire des femmes dans les cafés, j'allais au Luxembourg, j'adore le journal Luxembourg, et c'était un art de l'oisiveté, de la flânerie. Une des choses que, j'en profite pour dire, qu'une des choses qui me désole le plus dans le monde actuel, c'est qu'extrême, parce que je me promène beaucoup, hein, soit dans Paris, soit, je remarque les gens, je les regarde, plus personne se regarde à la manière américaine, et plus personne ne flâne.
Non.
Les gens vont dans des directions, en plus, ils flânent pas parce qu'ils ont tous des écouteurs, ils sont tous en train de regarder leur smartphone, et la flânerie, ça n'existe plus. Dans le métro, les gens ne se regardent pas.
Non.
Moi, j'adore regarder les gens, c'est prodigieux tout ce qu'on peut apprendre en les regardant. Et de temps en temps, alors je veux dire une chose, c'est assez étonnant, c'est que les seuls qui vous regardent encore, précisément, ce sont les gens qui viennent d'autres cultures, c'est souvent des immigrés. Et c'est très étrange. Pourtant, je suis pas du tout pour le fait de recevoir tous les immigrés, mais je dois dire que ils ont conservé une espèce d'humanité que nous on a perdue. Ils se regardent les uns les autres.
Ouais. De même, le visage, l'expression du visage, et dans les transports, c'est assez... L'écran, hein, l'écran capte...
Alors, on a oublié une chose, c'est que le mot écran, le sens même, les écrans font écran, par rapport à l'essentiel, selon moi, par rapport à la nature, entre autres, et aux choses humaines. Ils nous font écran, ils nous captent. C'est une forme d'esclavage mental.
Et vous parlez d'ailleurs, vous avez une aversion d'ailleurs pour le langage conceptuel, voilà. Et vos élucubrations, vous les comparez à des petites promenades remémoratives, comme s'il fallait vous remettre un petit peu comme on goûte du vin, comme on goûte un plat. Il y a un côté très sensoriel.
Alors, la promenade remémorative, c'est quand je consulte mes carnets, puisque moi, je suis l'homme des petits carnets. Hein,
ouais,
j'en ai, je sais pas combien, plus de 200. J'ai commencé à écrire des carnets au jour le jour à l'âge de 14 ans, et tous mes livres, je les ai tirés de mes carnets. Parce que maintenant, les éditeurs viennent me voir, moi j'écris sur commande maintenant. Ils me disent, est-ce que tu traiterais pas ce thème dans ton... Je dis oui, est-ce que tu l'as dans tes carnets? Et j'arrive, alors j'ai une forme de mémoire, je sais retrouver dans mes carnets les textes qui correspondent au thème.
Vous écrivez sur commande, mais c'est pas contradictoire avec votre nature profonde?
Non, parce que, je vais vous expliquer, en fait c'est un accord avec le... C'est souvent, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'éditeurs qui m'avaient lu et qui connaissaient quels pouvaient être mes thèmes. Et me dire, au fond, tu devrais traiter... Et alors je m'entendais avec eux, parfois non, parfois j'ai refusé. Hein. Et alors en plus, comme j'ai écrit pendant 40 ans, puisque j'ai publié tard mon premier livre à 56 ans, qui était un best-seller, j'ai une chance incroyable, mais j'ai écrit pendant 40 ans dans l'ombre, pour moi-même, tout seul. Et le fait d'être attendu est très important maintenant pour moi, parce que ça me stimule. Parce que finalement, j'ai attendu d'avoir l'audace, je manque de confiance, de vouloir proposer un éditeur. J'ai attendu tellement longtemps que maintenant, savoir que je suis attendu et que je vais être publié, pour moi, c'est un stimuli, quoi.
On va faire une petite pause musicale.
Oui.
Comme ça, nous allons voir qu'est-ce qui nous attend comme musique. Denis Grozanovic, nous parlons de votre livre « La gloire des petites choses » qui vient de paraître aux éditions Grasset. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai plein de questions pour vous. Ce qui est amusant, c'est que moi, je suis pas du tout d'accord avec votre position sur René Char. J'adore René Char. Je suis pas non plus d'accord, d'ailleurs, la comparaison que vous faites entre Ponge et Kailua. Moi, je trouve que Kailua, je sais pas si on dit Kailua ou Kailua, je pense qu'il est beaucoup plus intellectuel que Ponge, et vous, à vous lire, c'est un peu l'inverse, voilà. Et pour René Char, je suis pas du tout non plus d'accord, mais ce n'est pas grave. Peut-être avez-vous voulu dire par là que quand un poète est officiel, devient officiel et se prend au sérieux, c'est la fin de la poésie.
Ah, dans son cas, pour moi, c'est clair. C'est clair qu'il devient totalement abscon. Et qu'il nous propose des formules complètement, comment dire, amphigouriques, et c'est une sorte de phraséologie qui est pleine de pompe et qui pour moi m'insupporte, parce que justement moi je suis pour les petites choses, et lui tout de suite il veut toucher à l'universel, au grand art, il tombe exactement dans le défaut que j'expliquais au départ. Il veut tout de suite toucher à l'universel.
Il y a un côté oraculaire aussi, peut-être que c'est peut-être ça qui vous dérange, ou je sais pas. Enfin,
bon. Bah, de toute façon, tout ce qui est oraculaire me dérange, voilà. De manière générale. Je sais plus qui a dit ça, c'est Pierre Michon, il a dit que René Char parlait avec un porte-voix. Et ça, c'est Pierre Michon qui a dit ça. Et que, voilà, Pierre Michon, voilà un auteur que j'aime beaucoup, j'en parle dans mon livre. Lui,
minuscule. Et vie minuscule.
Vie minuscule, comme par hasard. Hein. Je veux dire, moi, moi, je suis pour le minimalisme. Char, il est pour la grande éloquence, selon moi. Et donc, il a peut-être pas toujours été. Parce que ce matin, justement, j'assistais à un petit colloque avec des amis, et quelqu'un a cité un poème de Char, de mémoire, que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Mais c'était le premier Char.
Oui, il y a toujours des premiers. Il y a aussi des écrivains maintenant. C'est avec la production littéraire.
Il y a un moment, on aurait dû lui dire arrête ton Char. Oui.
Alors moi j'ai bien aimé Schulz aussi. La poésie ne serait alors toujours, selon lui, et toujours Schulz, que des courts-circuits de sens qui se produisent entre les mots, un brusque jaillissement de mythes primitifs. Et c'est vrai que grâce à vous, on découvre sa pensée à lui. Et puis alors il y a des anecdotes. Oh, là c'est un régal. Par exemple Alexandre Calder, quand il rencontre le docteur Petiot, faut absolument que vous nous racontiez cette anecdote.
Alors voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça dans Marcel Cohen. Hein. Je le dis d'ailleurs. Et c'est ça pour moi la gloire des petites choses, parce que Alexandre Calder, le fameux sculpteur qui a fait les stabiles et les mobiles, oui, était juif et sa femme aussi. Et en 42, d'un seul coup, ils sentent que là, ça va devenir très dur, et ils cherchent à passer en zone libre. Et ils cherchent un passeur. Ils entendent parler d'un passeur qui se trouve être le docteur Petiot. Et il faut se rappeler que le docteur Petiot a été condamné à mort après la guerre, et qu'on a retrouvé dans sa maison, qui se trouvait à côté de Villeneuve-sur-Yonne, on a retrouvé à peu près, je crois, 200 valises de familles juives qui avaient complètement disparu de circulation. Et on sait qu'il les convoquait, il les estourbissait. C'est-à-dire, il leur proposait une drogue, il les estourbissait, puis il les faisait brûler dans son four. Et les voisins ont dit que pendant toute la guerre, la cheminée dégageait une fumée noirâtre et nauséabonde. Et il a jamais avoué, hein, et il n'y a jamais eu de preuve formelle, hein, sauf les valises. Et alors, il se trouve que Calder et sa femme entendent parler de ce docteur Petiot, ils se retrouvent dans le cabinet du docteur Petiot, qui leur explique la marche à suivre. Il dit, vous avez bien amené vos bijoux, vos avoirs, vos valises et tout. Ils ont tout amené. Et il dit, bon, je vais vous faire du café. Et il disparaît. Et on sait que c'est ça. C'est dans le café, il mettait une drogue. Et puis ensuite, bon. Et sa femme dit à Calder, écoute, ce médecin, ce docteur Petiot, se prétend chirurgien. Et je ne sais pas si tu as vu qu'il a les ongles tout noirs. Et ça, c'est pas possible. Un chirurgien peut pas avoir des oncles comme ça, c'est impossible. Je n'ai aucune confiance en cet homme, il faut qu'on s'en aille.
Très bien.
Et ils s'en vont, ils échappent par miracle.
Une phrase, une intuition.
Oui, mais la petite chose, les ongles noirs. Et je trouve ça assez merveilleux, l'histoire.
Vous devez aimer Sherlock Holmes.
Ah oui, bien sûr, hein, tout à fait ça, mon cher Watson.
Voilà. Et aussi une autre anecdote, Jean-Claude Roman, le tueur, enfin qui avait fait, qui pleure au moment qu'on évoque l'exécution de son chien.
Ah non, mais il faut commencer par le début. C'est que j'ai lu, parce que moi je grappille énormément, comme c'est expliqué, la bibliomancie, et j'ai lu en partie les mémoires de Sainte-Hélène, le mémorial de Sainte-Hélène, comment il s'appelle, Las Cazes,
oui.
Qui a été le confident de Napoléon à Sainte-Hélène. Et cet homme qui avoue lui-même avoir été insensible à la mort de 40 000 hommes sous ses yeux, il le dit à Colin Cour, son aide de camp, Las Cazes raconte que quand il dicte ses mémoires, d'un seul coup, il fond en larmes au souvenir d'un chien qui hurle sur le cadavre de son maître pendant la retraite de Russie. Et alors, je compare ça à Jean-Claude Roman, l'homme qui, pendant je ne sais plus combien d'années, mais très longtemps, faisait semblant d'être médecin et travailler pour l'OMS à Genève, et passait sa vie sur des parkings en attendant de rentrer le soir, et qui vivait grâce à des escroqueries auprès de ses proches. En plus, il n'avait jamais eu il avait échoué à l'examen de médecine, et il faisait croire qu'il était médecin. Et au moment même où sa femme a d'un seul coup compris la supercherie. Il a assassiné sa femme, ses enfants, ses deux parents, de manière très froide. Et il ne fond en larmes, durant son procès en assises, qu'au moment où le président lui demande pourquoi il a aussi exécuté son chien. Et je trouve ça assez extraordinaire, cette histoire. Et je la compare à d'autres histoires du même genre. Un des grands généraux de Louis XIV qui avait assisté à des batailles froidement, des batailles horribles où des gens se faisaient exploser par des boulets sans plus ou moins sourciller, s'évanouit au moment où il assiste à l'accouchement de sa femme. Et alors, ce que je dis à la fin, c'est que c'est le moment où, d'un seul coup, l'empathie avec l'humanité opère le retour du refoulé à l'occasion d'une petite pique qui perce la carapace idéologique. Que ces hommes-là étaient dans l'idéologie, c'était l'humanité avec un grand H, et d'un seul coup, c'est la petite humanité avec un petit H qui perce leur carapace, et d'un seul coup, ils s'écroulent. Mmh. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue politique, parce que des anecdotes de genre en disent plus sur les problèmes géopolitiques que les grandes théories.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a une anecdote aussi avec les coquillages de Sainte-Lucie. Bon, aussi une femme. Enfin, il y a plein de petits bouts comme ça. Une femme centenaire, on lui demande qu'est-ce qui a changé dans le monde. Elle répond, il me semble qu'il y avait beaucoup plus d'oiseaux. moi, j'ai bien aimé. Et puis aussi, vous rendez hommage encore à un auteur, c'est vrai qu'il faudrait quand même rééditer et redécouvrir, c'est André Mauroy.
Ah oui. Ah ben André Mauroy, oui, c'est extraordinaire. De son vrai nom, Émile Herzog.
Oui, voilà.
Et pour moi, c'est le meilleur. Il y a eu beaucoup de mariages comme ça entre la pensée juive et la pensée française. Alors, il y a Montaigne d'abord et ensuite Proust. Et c'est Albert Thiboudet, le grand critique, qui a parlé de l'aspect montaignesque de Proust. Mais André Mauroy, il est tout à fait là-dedans. Parce que, alors lui, il est pleinement juif, mais il a été élevé en France. Et cette espèce d'humour et d'ironie juive qu'il a pratiqué à travers l'esprit français avec maestria. Et la façon dont il nous présente, c'est un grand biographe. Les meilleures biographies par exemple, la biographie de Lord Byron ou de Shelley, c'est prodigieux. Et plein d'autres, hein, quand il parle il a beaucoup parlé de Chateaubriand, beaucoup de choses comme ça, et on l'a un peu oublié, et c'est dommage.
Et même les romans, Climat par exemple.
Ah oui, Climat, prodigieux, mais tout ce qu'a écrit André Mauroy, voilà quelqu'un qu'il faudrait exhumer. Et je raconte quand même la petite anecdote, parce qu'il a aussi un humour terrible, et c'était un angliciste, et il parle d'un romancier qui est complètement oublié, lui qui s'appelait Maurice Baring, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Daphné Adéan, qui a été traduit. Et il raconte que c'était un peu un excentrique, et il recevait souvent des gens dans son... Il a un peu de fortune, il recevait des gens à Londres dans son appartement, et un jour il reçoit plein d'amis, et puis la conversation est languissante. Alors d'un seul coup, il va vers les rideaux de sa fenêtre et il commence à les enflammer avec son briquet. Et les gens lui disent, mais que faites-vous, Maurice ? Il dit, ben vous voyez, la conversation n'était pas au niveau que j'aurais voulu. Et donc, je me suis dit que plutôt que de vous souvenir plus tard de cette soirée, on s'est ennuyé, vous vous en souviendrez de cette soirée où Maurice a mis le feu à ses rideaux. Ce que je trouve très très drôle.
C'est l'art d'être présent au monde.
Et je peux vous dire que ça, c'est une chose que j'ai envie de faire un nombre de fois quand je suis invité dans des dîners en ville.
Ah, oui. Mettre le feu à l'imaginaire.
Chez moi.
Dans votre livre, alors il y a des anecdotes, il y a aussi la mort, la façon de mourir. Par exemple, Fontenelle aurait déclaré avant de mourir, je fais semblant de mourir. Ça,
oui, c'est ça. Alors non, il faut savoir que à 100 ans, à l'époque, les gens assistaient à la mort des gens et donc ça durait très longtemps. Et lui, il a mis très longtemps à mourir. Et puis il se réveillait, et puis il se rendormait et les gens essayaient d'écouter si son cœur battait toujours. Et à un certain moment, il a fait ses signes à son meilleur ami de se rapprocher, puis il lui a dit, c'est un humour extraordinaire, il a dit je vais faire semblant de mourir. Et je trouve ça c'est le genre d'anecdote que j'adore parce que je les trouve finalement très significatif de beaucoup de choses qui nous mettent le cœur en joie et qui nous aident à vivre.
Puis il y a une sorte de clin d'œil à votre ami Roland Jacquard, qui était un grand joueur avec lequel vous avez joué aux échecs, et qui avant de se suicider, parce que Roland Jacquard avait prévu sa mort, il avait dressé la table du petit déjeuner.
Ah oui, ça c'est sa dernière femme qui me racontait ça. Quand elle est arrivée, elle a fait défoncer la porte par les pompiers parce qu'il répondait pas. la première chose qui l'a frappé en entrant, c'est qu'il avait mis la table pour le petit déjeuner avant d'avaler la substance létale. Et alors, il était tellement... Alors, il y a plusieurs thèses. J'ai un ami qui le connaissait bien, qui me dit il était tellement ritualisé qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Ce qui est possible. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est un dernier pied de nez qui nous a fait, et que d'une certaine façon, il a fait ça pour une dernière plaisanterie un peu esthétique. Et il était lui-même une sorte de dandy esthète. Et alors, en même temps, il faut savoir qu'il était un peu adepte du stoïcisme et que c'est le philosophe Piron, le philosophe de l'incertitude, si on peut dire, je trouve plus le terme, et qui professait tout le temps qu'il n'y avait aucune différence entre la vie et la mort. Mmh. Et un jour, un de ses élèves lui a demandé, mais là, pourquoi, maître, vous ne vous suicidez pas? Il lui dit, précisément parce qu'il n'y a pas de différence. Et je trouve que c'est un beau commentaire de la mort de Roland Jacquard et du petit déjeuner.
Et puis il y a aussi cet haïku de Roland Jacquard, seul à la gare de Lausanne, une larme. Je trouve ça assez beau.
Ah, ça c'est, oui, ça m'a ému. Et ça, moi j'ai aussi la larme à l'œil quand j'écoute ça.
C'est très beau.
Parce que, oui. Et là c'est un vrai haïku, hein, parce qu'il y a peu d'occidentaux, comme j'explique, qui sont capables de faire des haïkus.
Très très bien. Alors, pour nous remonter le moral, il y a les sandwichs de Maigret. Le roman policier, dites-vous, n'est pas, comme le croient certains, esprit faux. Une histoire de caissière, oui, c'est ça, découpée en rondelles, mais une rêverie autour d'un sandwich, d'un fauteuil, d'un demi bien frais.
Oui, oui, parce que finalement, ce qu'on aime. Alors, ça, c'est le passage sur ce qu'on appelle le Suave Mare Magno, c'était Lucrèce qui avait. Qu'il est doux de voir les marins se débattre dans la tempête depuis le rivage. Et je pense que notre amour des aventures, des romans policiers, c'est ça, c'est que. On en jouit d'autant plus qu'on est dans un bon fauteuil avec une bière à portée. Et finalement, c'est ça. Maigret, c'est tout le temps ça. On jouit de Maigret parce qu'on sait qu'il y a son sandwich qui va arriver. Il y a le Godin qui donne sa bonne chaleur à la PJ. Et ça, c'est il y a donc une sorte de bonheur bourgeois, vous voyez, dans la contemplation de ceux qui se débattent dans le pétrin.
Et puis aussi, vous rendez hommage à Supervielle, que j'aime beaucoup, qui, dites-vous, osa parler de pensée et d'exactitude en poésie, en pleine période d'engouement, justement, on en a parlé tout à l'heure, pour l'écriture automatique, Supervielle, grand poète. Et vous revenez à Proust, on sent que Proust est quand même l'ombre, enfin, il est dans votre arrière-pays littéraire, toujours, il est toujours là, Proust.
Ah ben, puisque mon livre traite beaucoup de la poésie, pour moi, Proust, c'est un des plus grands poètes français. C'est disséminé dans la recherche, mais c'est un poète prodigieux. J'ai pas d'image en tête comme ça, mais à tout moment, il y a une poésie intense qui se dégage. Et ce que j'indique là, c'est que justement, puisque je m'en prends à une certaine forme de poésie actuelle que je trouve être complètement intellectualisante et qui manque son but. Il faut savoir qu'il avait publié très jeune, dans la Revue Blanche à l'époque, qui était une revue très très lue, une attaque de Stéphane Mallarmé. Où il expliquait que s'il y a une espèce d'obscurité qui parfois peut être parlante chez certains poètes qui se laissent dominer par leur inconscient, il y a aussi une obscurité qui est voulue, qui est une forme d'esbrouf, qui est une manière de masquer l'indigence du propos par vous voyez, une... j'arrête, je trouve pas le terme. Enfin, on m'a compris, je crois.
Oui, d'ailleurs, vous dites, le point commun entre Proust et Aldas, c'est la distinction qu'ils établissent entre le moi authentique et le moi gigogne. Et puis, selon Proust, il y a une obscurité consubstantielle à chaque poète, une obscurité qui lui échappe en quelque sorte et qui ne fait qu'exprimer la complexité des sentiments. Donc, on sent ce jeu sur la mémoire, parce qu'en fait, c'est une traversée de la mémoire aussi, votre livre, Denis Grosdanovitch.
Ah oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire, oui, je suis tout le temps assailli par des remémorations qui me viennent de citations, de choses qui me reviennent. Je vis beaucoup dans. C'est une chambre d'écho, vous voyez.
Vous en parlez.
Et ça me plaît beaucoup, cette chambre d'écho. C'est ça, au fond, être poète au sens littéraire, c'est d'être capable de créer cette chambre d'écho qui nous permet de vivre, et c'est d'ailleurs là où je pourrais faire une défense du par cœur, parce que c'est pas moi qui ai dit ça, mais on apprenait les poésies par cœur dans le temps. Et au fond, très souvent, on comprenait pas à l'époque, on faisait du par cœur, mais on comprenait pas la poésie. Mais des années plus tard, quand vous êtes dans la peine, dans l'affliction, d'un seul coup, le poème vous revient, parce qu'il est par cœur, et il vous aide. Et donc, là, il y a un véritable bénéfice du par cœur, qui a été abandonné maintenant.
La petite musique qui ressurgit, peut-être. Et est-ce que vous êtes, à un moment donné, vous est impossible, dites-vous, de satisfaire mon besoin de prendre le large par procuration, c'est-à-dire par le biais de récits d'audacieux écrivains voyageurs? Est-ce que vous êtes sédentaire? Est-ce que vous êtes nomade? Et puis Denis Grosanovi, vous évoquez votre fauteuil de lecture, qui a l'aspect d'un vieux routier usé par les tribulations du trimar. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Oui, parce que, en fait, quand j'étais jeune, j'aurais voulu être un explorateur, un audacieux voyageur. Mais je me suis rendu compte très vite que j'étais trop casanier, peut-être trop timoré, et surtout incapable de m'organiser, parce que quand même pour voyager il faut s'organiser. Et moi j'ai tendance à me laisser aller aux choses qui venaient, alors qu'il faut s'organiser pour voyager. Et donc je me suis rendu compte que c'était une chimère chez moi. Mais comme j'avais quand même envie de voyager d'une certaine manière en esprit, j'ai découvert que en lisant tous ces merveilleux voyageurs, hein, entre autres Nicolas Bouvier, Blaise Cendrars, même Ella Maillard, mais que ce soit pas un grand écrivain, mais c'est merveilleux quand même. Et puis Sylvain Tesson pour finir. Là, je voyageais énormément et en fauteuil, sans avoir le risque.
Vous citez aussi Robert Marteau, un grand poète aussi.
Ah, quel dommage que Robert Marteau. Alors ça, lui, il est totalement oublié. Et voilà, un grand poète. Hein. Un peu difficile à lire, parce qu'il est un peu précieux, mais alors il y a des pépites.
Et je pense, vous citez aussi Saint-John Perse, à un moment donné, nous qui mourrons peut-être un jour, disons l'homme immortel, au foyer de l'instant, au foyer de l'instant.
Alors c'est extraordinaire le mot foyer, parce qu'il l'emploie dans les deux sens. Voilà. C'est-à-dire le foyer domestique avec le feu, et aussi le foyer de la précision, le foyer optique. Et là, c'est là où ça marche formidablement bien. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour dire que, encore une petite critique de Char, c'est que...
Vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Non, je ne peux pas l'empêcher, parce que, précisément, c'est Aristote qui l'a dit le premier, mais ça a été repris par Champfort. Pour qu'une métaphore marche, elle doit marcher dans les deux sens, dans le sens matériel et dans le sens spirituel. Mmh. Et il faut qu'il y ait un aller-retour. Alors là... C'est écrit par une femme qui a écrit ses mémoires, qui s'appelle Chantal Thomas-Zupac. Et elle raconte qu'elle était domestique chez les Hervos, les grands collectionneurs. Mmh. Et René Char venait souvent là. Et René, comme il était très dragueur, c'est connu, et c'était une jolie fille. Et il lui récite un poème où il est question de l'oiseau qui n'a pas aucun enthousiasme pour chanter au milieu du buisson d'épines. Et alors, elle lui rétorque, mais Monsieur Char, vous n'avez jamais vécu à la campagne? Il dit, mais pourquoi mon enfant? Eh bien, il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent au cœur du buisson d'épines. Elle dit, mais mon enfant, mais c'est une métaphore. Elle dit, ah oui, mais alors une métaphore, il faut que ça marche dans les deux sens. Et c'est extraordinaire, parce qu'elle lui donne une leçon. Parce que, oui, c'est ça. Alors, à mon avis, c'est ça le problème de Char, c'est que la métaphore n'est jamais que illustrative.
Ou à sens unique.
À sens unique.
Et vous aimez le jazz aussi, c'est pour ça. Dans le jazz, il y a le jeu.
Oui, voilà, exactement. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait un aller-retour.
Alors, on pourrait, le temps passe et on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il y a dans votre livre, mais les lecteurs le découvriront, Denis Grosanovic. Parlez aussi de Marguerite Yourcenar, qui est attentive, dites-vous, aux moindres manifestations de la puissance poétique, de Pessoa, que vous considérez comme le grand taoïste occidental. Et puis, j'ai bien aimé aussi ce clin d'œil à la notion du non décisif, de l'instant non décisif de Plossu, je crois. Enfin,
oui, c'est Bernard Plossu, oui, voilà. Qui est devenu un ami et qui était un grand photographe. Et dans ses photos, au début, ça paraît qu'on ne comprend pas ce qu'il a voulu photographier. Et puis d'un seul coup, il y a un petit détail qui apparaît et qui fait que, d'un seul coup, alors c'est encore la part pro toto, c'est la partie pour le tout, ça illumine toute l'image. Et d'un seul coup, on comprend. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce que c'est une école minimaliste où, justement, le petit détail nous illumine, quoi. Et ça, dans les photos de Plossu, c'est absolument incroyable.
Enfin voilà, il y a plein de, aussi des contre le snobisme intellectuel que vous dites, le plus sophistiqué en France, hein, c'est sûr. Une dernière question, serait pour reprendre le questionnaire de Proust, quel est votre personnage de roman préféré, votre idéal de personnage de roman, si je reprends ce questionnaire, le fameux questionnaire de Proust.
Difficile à, comme réponse. J'aurais tendance à dire peut-être l'Ulrich de l'homme sans qualité.
Merci à vous, Denis Grozanovic. Il y a en ce moment des projets d'écriture. Vous êtes ou c'est toujours
Parallèlement, non. J'attends de digérer un livre avant de commencer. De toute façon, j'écris assez vite. Mais j'écris tous les jours, plus ou moins longuement dans mes carnets. Oui. Tous les jours. Ce qui fait que je vais assez vite ensuite parce que j'ai un tel entraînement qu'ensuite il suffit que je déroule, ça va à une vitesse incroyable.
Vous faites comme les cuisiniers, vous avez vos ingrédients, il faut
suivre. Exactement, bien vu. Et voilà, alors peut-être une sorte d'autobiographie fictive, mais qui ne sera pas une autofiction parce que malheureusement, je trouve ça très bien le terme autofiction. L'ennui, c'est que, comment ça a été utilisé. Mais c'est toujours. Quand on écrit une autobiographie, c'est toujours une autofiction. Et donc, ça serait une sorte de fiction de moi-même. J'aurais envie de l'appeler d'un terme philosophique, mais ça serait trop philosophique, phénoménologie de moi-même. C'est-à-dire l'étude des tenants et des aboutissants qui ont fabriqué ma personnalité. Et c'est ça que j'aimerais faire. Donc, raconter l'histoire de ma famille et tout ce que j'ai imaginé et tout ce que j'ai peut-être imaginé à faux et toutes mes illusions, frustrées ou non. Et voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Mais c'est un livre de longue haleine, ça.
Bon. Ben, on vous retrouvera en tous les cas avec plaisir, Denis Grozanovic. Merci déjà pour La gloire des petites choses. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Merci à vous.
Merci à vous aussi. Merci.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Rêve de joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Thank you. là pour le dessert, troussez-moi cette cotte. Vite, chemise et tout, qu'il n'en demeure rien qui me puisse empêcher de reconnaître bien, du plus haut du nombril jusqu'au bas de la motte. Là, sans vous renfrogner, venez que je vous frotte et me laissez à part tout ce grave maintien. Suis-je pas votre cœur? N'êtes-vous pas le mien? C'est bien avec moi qu'il faut faire la sotte.
Mon cœur, il est bien vrai, mais vous en faites trop. Remettez-vous au pas et quittez ce galop.
Ma belle, baisez-moi, c'est à vous de vous taire.
Ma foi, cela vous gâte au milieu du repas.
Belle, vous dites vrai, mais se pourrait-il faire de voir un si beau con et ne le foutre pas?
We'll be right back. head, a little bit of scratching in my head. But you want it? Did you get paid?
Stop a few.